Mais vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant.
Vous ne me prenez pas au sérieux.
Mais vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre.
Bienvenue sur la chaîne de podcast du Théâtre de Belleville. Ici, j'écoute des gens parler théâtre et création. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque vous allez entendre la restitution audio de la masterclass qui s'est tenue le 9 mars au Théâtre de Belleville. C'était une conférence menée avec une main de maître par Émilie Vervaette, directrice des productions pour Fab, fabriquée à Belleville. Elle s'est attachée à détailler les grandes étapes du montage d'une production lorsque l'on est une jeune compagnie, autour de trois grands axes, la création artistique, la production et les moyens de financement.
Maintenant, place à Émilie.
T'es pas obligée, ça.
Bonjour, donc oui, je suis Émilie, je vais vous parler de production et plus largement du montage d'une production du tout début à la presque fin, parce qu'en fait c'est jamais vraiment terminé. Sachant que je vais essayer autant que possible de faire un panorama un peu chronologique. Alors, donc une production. Ce que j'entends par production, du coup, c'est la volonté, le souhait d'une équipe, d'une production, d'un bureau de prod, d'une compagnie, d'une troupe, de créer un spectacle et de mettre tous les moyens en œuvre pour le créer. Alors d'abord, pour une équipe, en tout cas quand il s'agit d'une compagnie, bien souvent, ce qui est au départ de ce montage de production, ça va être le choix d'un texte ou l'écriture parfois d'un texte s'il s'agit d'une écriture originale. En tout cas, c'est bien souvent le point zéro. Les premières questions qu'on doit se poser quand on monte un projet, avant la mise en œuvre de tout ça, c'est de détailler un petit peu les points nécessaires sur l'objet qu'on cherche à atteindre. Donc, le choix d'un texte. Définir aussi une équipe. Alors, définir une équipe, ça peut passer évidemment par organiser des auditions, faire passer des auditions. Parfois, quand c'est une compagnie et une troupe déjà assez solide, et c'est normal, il est souvent... on a souvent envie de travailler avec l'équipe qui est déjà en place. N'empêche que ça peut comporter des auditions en interne au sein de la compagnie. En tout cas, c'est une des étapes au tout départ. Et définir au-delà de la distribution, donc l'équipe du spectacle, l'équipe artistique, il faut également définir une équipe de production. Donc définir un peu les rôles au sein de l'équipe, quand on n'est pas encore structuré et professionnalisé, c'est du qui fait quoi. Ensuite, l'idée, une fois qu'on a composé cette équipe, qui, à mon sens, c'est donc vraiment d'un côté l'artistique, de l'autre la production, sachant que, in fine, dans les deux, il y a l'aspect technique de l'équipe qui est à la fois dans l'un et à la fois dans l'autre, et parfois au milieu. Mais en tout cas, ça fait partie de la globalité. L'idée, ensuite, c'est, une fois qu'on a défini le texte, qu'on l'a soit choisi, soit écrit, l'idée, c'est de le sentir. Donc moi, dans ces cas-là, c'est ce qu'on fait très souvent sur nos montages de production, c'est d'organiser une lecture privée, bien entendu, à huis clos, où on essaye un peu de sentir le texte et de voir s'il se tient, s'il s'entend et si, du coup, ça nous donne encore plus envie d'aller vers l'objet qu'on cherche à atteindre. Et parce que, bien souvent, c'est une étape assez cruciale qui va permettre de dessiner pas mal de choses ensuite sur les autres étapes du montage de production. Après, définir un calendrier et aussi définir une géographie au projet. Donc, définir un calendrier, c'est se donner un objectif de création. Et définir une géographie, ça veut dire comment on trouve en fait des lieux et des partenaires pour créer le spectacle en amont de la première et ensuite le diffuser. Et donc là, c'est décider, est-ce qu'on le crée à Paris ou dans un théâtre en lieu fixe, est-ce qu'on le crée à Avignon, est-ce qu'on le crée en tournée. En tout cas, ça donne des paramètres géographiques et la plupart du temps, l'un communique avec l'autre. C'est-à-dire que le paramètre géographique va impacter sur le paramètre calendrier et inversement. Donc c'est évidemment des questions à se poser quand on cherche à monter une production. Et c'est là-dedans qu'on se donne des objectifs. Ensuite, on essaye de bâtir peu ou prou des conditions et des paramètres de création. Donc là, c'est tout ce qui consiste en la conception. Donc qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on veut atteindre en termes de technique, en termes d'artistique, en termes de volume. Et donc ça, c'est une donnée ou des données qui vont définir des postes de dépenses, et j'y viendrai ensuite. c'est que du coup, ces postes de dépenses vont définir un budget qui vont définir en gros un petit peu toute, toute votre production. Et en fait, le budget, c'est la partition de votre production. C'est quelque chose à bien intégrer, c'est essentiel. C'est un des paramètres sans lequel vous ne ferez rien. Ensuite, donc, du coup, tout ça, ça finit par dessiner le jour de la première, qui est évidemment un moment charnière. Au sens de la création large, c'est le climax. C'est le pur point d'acmé, c'est la première. Et la première dessine, donc, par la suite, l'exploitation. Donc, comme je disais tout à l'heure, Paris, Avignon, en showcase, en lieu fixe, en tournée. Tout est possible dans l'absolu. Voilà, donc ça, c'était le prologue. Je mets un petit nota bene. Il peut s'agir, quand on est sur une production, mais donc ça, ça ne va pas forcément concerner les jeunes compagnies, mais ça arrive que ce soit en lieu fixe ou dans une production vraiment structurée, professionnalisée et un peu lourde, qu'il s'agisse d'une commande. C'est-à-dire que c'est la production ou le lieu qui va formuler une demande, une commande à un artiste, à un groupe d'artistes, à un auteur, à un metteur en scène, qui parfois est les deux, d'un projet, en lui disant, voilà, je voudrais que tu adaptes ce texte, je voudrais que tu montes cette écriture, ou je voudrais que tu m'écrives un texte sur le sujet de... Voilà. Bon, c'est un nota bene, juste pour dire que ça arrive, et de plus en plus, quand on est sur des productions extrêmement structurées, qu'on soit sur une mise en scène commandée. Voilà, un peu comme le deuxième Batman, quoi. C'était une commande. C'est pour ça qu'il est beaucoup moins bien. Et... Donc, ensuite, une fois qu'on a défini de quel texte on voulait partir et quel texte on voulait monter, le tout premier point qui est essentiel, et j'insiste toujours beaucoup là-dessus, parce que bien souvent on le néglige, et en fait c'est souvent les jeunes compagnies ou les jeunes productions qui le négligent le plus, et ça peut être suicidaire, c'est de vérifier la disponibilité des droits. Et une fois qu'on est sûr qu'ils sont disponibles, de faire une demande d'autorisation aux ayants droit ou à la structure de perception. Est-ce que tout le monde voit à peu près de quoi je parle quand je parle d'ayants droit et de structure de perception? Voilà. Ce qui est absolument essentiel, c'est... bon, alors évidemment, on sait tous que Molière est libre de droit. Donc, sur ce genre de choses, on ne se fait pas trop de nœuds au cerveau. Mais quand on est sur des textes d'auteurs contemporains, c'est vraiment la première chose à faire. Et encore plus quand il s'agit d'un texte qui n'est pas théâtral et qu'on souhaite l'adapter au théâtre. Et encore plus si on décide de mettre en scène un texte qui n'est pas théâtral et qui est déjà adapté, dont on souhaite mettre en scène l'adaptation. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on demande... la plupart du temps en France, ça va consister en faire une demande à la SACD. C'est très souvent le plus simple, mais c'est pas toujours si simple, parce que tout le monde n'a pas déposé à la SACD toutes les sources ne sont pas gérées par la SACD. Parfois, les ayants droit... ou les auteurs même en font une gestion directe, ou parfois c'est leur éditeur qui gère, ou parfois ils ont un agent, et ça vous coûte très cher. Mais dans tous les cas, en tout cas, il faut s'assurer de qui est le percepteur, et non seulement s'assurer de la disponibilité, ensuite d'avoir l'autorisation, et après, encore plus compliqué, mais ça c'est encore une fois dans des grosses productions, si par exemple il est déjà monté, s'assurer qu'il n'y a pas d'exclusivité, vous posez la question de savoir si vous désirez l'exclusivité, parce que s'il est déjà monté, ça peut être rédhibitoire pour la tournée de votre spectacle ou sa fréquentation, et donc du coup voilà, ça c'est pour tous les petits paramètres et les petites astérisques au contrat, mais en tout cas voilà, c'est un point essentiel, et si vous voulez on le détaillera un peu plus tard au moment de l'échange, en tout cas c'est la première chose à faire avant de commencer quoi que ce soit. Donc, une fois qu'on a validé la disponibilité des droits et qu'on a reçu l'autorisation, eh bien, on peut passer au budget. Le budget, donc, il est dessiné par des paramètres auxquels on a déjà réfléchi, comme le nombre de comédiens, le type de scénographie qu'on souhaite atteindre, est-ce qu'il y a de la musique, de la vidéo? Est-ce qu'on souhaite des costumes d'époque avec beaucoup, beaucoup de perruques, ou est-ce qu'on veut juste des costumes très simples et contemporains, et auquel cas il n'y a même pas de costumier, on va chez H&M. Et tout ça va définir donc des postes de dépenses qui vont monter votre budget de création. Sachant qu'un budget, ce n'est pas juste les postes de dépenses à la création. Moi, je... Enfin, après, c'est un humble point de vue et c'est mon conseil. Moi, je pense qu'un budget, il faut le voir sur plusieurs temporalités. La première étant, bien entendu, la création. Mais ensuite, il faut penser, en termes de budget, de dépenses à l'exploitation, prix de vente en tournée, etc. Alors après, ça va dépendre de vos objectifs. Mais par exemple, si c'est Avignon, il va de soi qu'il ne suffit pas d'imaginer quels sont les postes de dépenses d'un budget de création, parce que la plupart du temps, Avignon coûte encore plus cher que la création. Et si c'est votre objectif, c'est super d'avoir un spectacle, mais si derrière, il ne se passe rien, c'est un peu dommage. Donc, l'idée est de le voir en fonction des étapes que vous cherchez à atteindre. Est-ce que vous voulez que je fasse une petite liste rapide des postes de dépenses d'une création ? Le tout premier, en général, en tout cas chez moi, c'est les salaires artistiques, parce que c'est souvent la dépense la plus lourde. Encore plus quand on monte le Maître et Marguerite et qu'il y a 12 comédiens au plateau. Et donc, du coup, là, alors il est question de dessiner donc, un salaire en répétition. Donc, moi, j'invite autant que possible et dès que possible, même si on est des jeunes compagnies et qu'on n'a pas de sous, de se pencher sur les grilles des minimums syndicaux et de respecter aussi vite que possible le code du travail. Le code du travail, bah, c'est assez simple, hein, c'est comme tout le monde. Hein, c'est le nombre d'heures fois le minimum horaire. Sachant que dans nos métiers, et heureusement, il y a ce qu'on appelle des conventions collectives. En fait, vous pouvez très vite être adhérent d'une convention collective et appliquer les grilles de minima syndicaux. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, je pratique la grille du SNDTP, c'est Syndicat National des Théâtres Privés. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, une journée de répétition donc en deux services, soit deux fois 4 heures, soit une journée de 8 heures, elle est à 79,08 €. Sachant que je crois que le syndéac est à 84 ou 85. Donc ça va dépendre de votre convention. Il faut évidemment qu'elle soit en accord un peu avec vos principes et le type de réseau dans lequel vous évoluez. Mais voilà. Et sinon, après, si on ne se réfère pas à une convention collective, bah, tout simplement, c'est le code du travail et les minima légaux. Voilà. En tout cas, là, du coup, il s'agit de chiffrer le nombre de jours de répétition souhaités par le nombre d'heures par jour, par le nombre de comédiens, par le salaire horaire brut, ce qu'on multiplie, tout ça on multiplie, ça donne un chiffre. Et du coup, à la fin, vous multipliez par les charges patronales et ça vous donne une masse salariale, un coût employeur de la charge artistique du plateau en création. Ça, c'était pour la première ligne. Ensuite, donc, celle du metteur en scène. S'il y a lieu un assistant ou une assistante à la mise en scène. Ensuite, moi, je décline toujours les postes de création technique. Donc ça veut dire souvent dans l'ordre, le premier sans quoi on ne fait rien au théâtre, c'est évidemment la lumière. Et après, selon les projets, vidéo, son, costume, scénographie, et éventuellement, en souligne de la scénographie, l'atelier de conception décor. Parce qu'il arrive très souvent qu'un scénographe vous propose des plans et imagine une scénographie, mais ce n'est pas forcément lui qui le construit. Après, tous les achats de matériaux. Alors, sachant que les premiers créateurs dont j'ai parlé, bien souvent, ça va être en salaire. Il arrive que certains soient des freelances, maisons des artistes, etc., etc. Auquel cas, c'est des honoraires, donc cela veut dire qu'ils vont vous fournir une facture, ce n'est pas à vous de les déclarer. Mais du coup, ça se négocie peu ou prou de la même façon. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. En tout cas, on parle quand même d'embauche pour ces lignes-là. Et après, là, on passe au-delà des embauches. Donc à l'achat de matériaux, donc pareil, costumes, décors, lumière, son, éventuelle location ou achat technique. Parce que parfois, vous êtes sur de la vidéoprojection et donc ils vous font un vidéoprojecteur. Après, faut toujours imaginer une enveloppe de communication. Alors communication au sens large, c'est-à-dire la conception par exemple de votre affiche, faire un reportage photo dès que possible pour avoir des visuels du spectacle. Si vous avez plein de sous, vous pouvez faire une captation. Ça, c'est un outil très précieux pour le chargé de diffusion. On y viendra plus tard. Éventuellement, si ce n'est pas pris en charge par le lieu où vous démarrez votre première exploitation, il faut envisager des impressions, donc d'affiches, de tracts. Pourquoi pas des encarts de presse achetés pour être diffusés dans des supports autres que le tract ou l'affichage. Des partenariats, etc. Et dans cette enveloppe de communication, on peut, à cette étape, compter également, quand on a plein de sous, une attachée de presse. Mais ça coûte très très cher. Sauf que c'est assez indispensable. Ensuite, on va parler de tout ce qui consiste, ce que j'appelle moi les frais annexes ou TVHR. TVHR, ça veut dire transport, voyage, hébergement, restauration. Parce que pour la période de résidence, évidemment, vous n'êtes pas toujours forcément à Paris ou à proximité des lieux de résidence de l'équipe. Ou même, par exemple, si vous êtes tous parisiens, mais qu'il y a un Marseillais dans la bande, il faut bien qu'il dorme quelque part. Auquel cas, donc, on comprend toujours une enveloppe de transport, logement, repas, catering, régie divers. Et transport du décor, parce qu'en fait, plus ça va aller dans votre création, plus il va y avoir des choses à déplacer. Et donc, à terme, autant on peut démarrer avec une Twingo, autant on finit souvent avec un 20 mètres cubes. Donc, il y a un petit budget drive-y à prévoir, ou Hertz, quand on a plein de sous. Alors, en sous-texte, du coup, parce qu'on parle de résidence, parce que parfois, on n'a pas la chance d'avoir des mises à disposition gratuites de lieux, eh bien, il va falloir penser à de la location de salles de répétition. Donc, pour les plus petits budgets, vous les connaissez sûrement tous, il y a les ateliers Saint-Roch ou l'espace GEMAP à Paris. Mais après, du coup, quand on a beaucoup de chance, ou qu'on est bien inséré ou qu'on a bataillé dur, eh ben, on a la chance d'avoir des lieux de résidence. Donc, par exemple, pour prendre la région parisienne, et il y en a beaucoup, beaucoup. Là, à proximité, moi, je pense à un de nos premiers partenaires qui est Lila en Seine, qui est absolument génial, mais qui est évidemment très sollicité. Après, il y a des demandes d'accompagnement là-dessus qu'on peut faire à Arcadie, qui a mis en place un dispositif absolument génial qui s'appelle les plateaux solidaires, où en fait c'est des lieux, des scènes de spectacles d'Île-de-France qui mutualisent leurs espaces disponibles quand ils le sont, et donc en quoi Arcadie ensuite vous reroute pour aller répéter sur des espaces disponibles en Île-de-France. Ça, c'est absolument génial parce que ça vous offre le luxe de pouvoir créer dans des lieux hyper confort et complètement professionnel, et donc d'avoir de la disponibilité technique et tout, et ça, c'est assez top. Parce que du coup, je fais une ellipse, c'est que quand on réfléchit à un espace de résidence et de répétition, au tout départ, ça peut être évidemment pensé en termes de répétition pure, mais il y a bien un moment où en fait votre équipe technique va débarquer, et il va falloir quand même penser lumière, et c'est pas dans une salle de répétition que le créateur lumière pourra concevoir ou en tout cas mettre en œuvre le plan de feu qu'il a imaginé. Et auquel cas, bah, du coup, il faut des espaces qui permettent une création technique. Et évidemment, bah, par exemple, pour prendre GMAP, pour ceux qui le connaissent, ce n'est pas l'idéal pour créer en technique. Donc du coup, c'est là où, quand Arcadie met à disposition le pôle culturel d'Alfortville, pour créer, c'est absolument merveilleux. Je rebondais sur un truc, je n'avais pas prévu de vous en parler. Tout le monde sait ce que c'est qu'une licence d'entrepreneur de spectacle. C'est juste que, par contre, si tu te déclares, si tu te structures, et si tu produis comme une structure professionnelle sans avoir la licence, ni même en tenir compte, eh bien tu es verbalisable comme un bar qui vend sans la licence. C'est exactement pareil. Ça fait partie des lois françaises. Et évidemment, en sous-texte, c'est aussi une charte, qui dit que en tant que structure professionnelle, eh bien tu respectes ce que ça implique. Et après vient tout le paramètre du ce que j'appelle le bureau, mais en fait, en étant un peu plus technique dans les termes. Le salaire du coup de tous les membres du bureau, donc un administrateur, un responsable de production qui souvent quand on démarre est la même personne, la gestion du social, parce que bien souvent vous n'êtes pas structuré pour éditer de fiches de paye faire tout ce qui concerne l'embauche, et auquel cas vous allez passer par un expert comptable dans un bureau comptable, et donc ça a un coût. Bon, alors ça va varier selon les cabinets comptables, mais en général, ça varie de 20 à 30 balles par fiche de paye éditée. Donc voilà, une fois qu'on a dessiné toutes ces grandes lignes, et qu'on arrive à un montant total de création, et ensuite on bascule de l'autre côté sur la partie exploitation. Donc là, si ça vous va, on va prendre l'exemple d'un festival d'Avignon. Et donc on a le budget d'exploitation du festival d'Avignon. Donc là, en fait, il va beaucoup ressembler à votre première partie de budget, sauf que ce n'est pas les mêmes montants, parce que ce n'est pas sur les mêmes durées, ce n'est pas sur les mêmes salaires, ce n'est pas sur les mêmes négociations, etc. Et donc, pour faire rapide, sur les lignes de dépenses du Festival d'Avignon, on a donc pareil, salaire des artistes, salaire de la mise en scène, éventuel rachat de matériaux, costumes, lumière et décors, parce que parfois, on a juste un peu son décor, ou les costumes nécessitent un réajustement... où on doit racheter un petit peu de technique spécifique au lieu dans lequel on va jouer au festival, où on doit faire une passation entre le créateur lumière et le régisseur du festival, parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui vont faire la création mais qui refusent de faire la régie au festival ou en tournée. Eux, ils sont créateurs, ils n'ont pas envie de faire régisseur. auquel cas il faut prévoir un temps de passation, donc ça nécessite des salaires. Le salaire du régisseur pendant le festival, bien entendu. Les logements, les transports et les hébergements, ça je l'ai déjà dit, et les repas. Enfin bref, tout ce qui consiste les frais annexes du festival. Donc ça, c'est en général une enveloppe extrêmement lourde. Pour un festival d'Avignon d'un mois, la ligne de dépenses de frais annexes, bien souvent avoisine, et ça arrive que ça le dépasse, le prix des salaires pendant un mois. Tellement c'est exponentiel, parce que ça, c'est un vrai business du Festival d'Avignon. Ça explose très, très vite le budget. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'on n'imagine pas du tout les mêmes choses quand on projette une création au Festival d'Avignon que quand on projette une création à Paris. Parce qu'évidemment, ce type de charges vont faire vriller votre budget là où ça ne sera pas du tout le cas à Paris. Et pareil, toujours à Avignon, alors qu'à Paris, par exemple, on peut être en co-réalisation, auquel cas on n'a pas de poste de dépense pour le lieu dans lequel on va jouer, puisqu'on est à la recette et on partage avec le lieu les recettes qui existent, enfin qui sont générées. Alors qu'à Avignon, très souvent, il va s'agir de contrats de location. Et donc exactement comme les frais annexes, la location de salle à Avignon est un vrai business qui coûte extrêmement cher. Et pour vous donner le prix moyen d'une salle à Avignon, je crois que pour une jauge de 100 places, il doit être à 10 000 euros. Donc, je vous passe les détails. Si on monte à 300 places, voilà. Et donc, c'est un montant à mettre. En revanche, on récupère évidemment toutes les recettes, comme dans tous les contrats de location. Le truc, c'est que recettes, ça consiste en du prévisionnel. On ne sait pas du tout de quoi c'est fait. C'est basé sur de l'espoir. Alors, bien entendu, on peut être heureusement surpris, mais on peut aussi avoir très mal. Donc pareil à Avignon, tout pareil comme dans la création, le budget de ce qu'on appelle le bureau, le budget administratif, donc production exécutive, responsable de prod, responsable de communication par exemple, attaché de presse, administrateur, gestion du social et un nouvel arrivant qui est essentiel pour la survie de votre spectacle, le chargé de diffusion. Sachant que voilà, ça c'est un peu le premier soldat de votre projet, puisque sans lui, l'exploitation ne sert à rien. Puisque en fait, faire une exploitation au Festival d'Avignon, c'est pas du tout pour gagner plein de sous là-bas, c'est pour pouvoir faire plein de dates de tournée et gagner des sous beaucoup plus tard. À Paris, c'est exactement la même chose. Donc moi, je n'ai pas de meilleur conseil que de vous inciter très rapidement, si vous devez faire des économies sur tous les postes de dépenses. S'il y en a un qu'il ne faut pas négliger en se disant « je ferai sans chargé de diffusion », c'est bien celui-là. Il faut vraiment le considérer et s'attacher de quelqu'un en qui vous avez confiance, qui, même s'il n'est pas expérimenté, est une personne volontaire et de confiance, qui pourra apprendre avec vous. Mais en tout cas, c'est un poste au moins aussi important que votre premier rôle dans cette mesure-là. Et je n'ai pas de meilleur conseil à donner. C'est peut-être parce que j'étais une ancienne chargée de diffusion. Mais je suis super sérieuse, en fait. C'est que ce soit à Paris ou à Avignon, vous ne ferez jamais d'équilibre économique sur votre budget total en ne comptant que sur les recettes du Festival d'Avignon ou de Paris. Sauf, bien entendu, quand vous vous appelez Alexis Michalik et que vous jouez au Palais Royal. Mais ce n'est pas tout de suite, en général, que ça arrive, mais si je vous le souhaite. Mais du coup, l'idée, c'est après, derrière, de générer un maximum de dettes de tournée, parce que souvent, le point d'équilibre de votre budget total, il se fait pendant la tournée. On arrive à zéro en termes de résultats pendant la tournée. Et après, on bascule en bénéfice. Avant, on est très souvent déficitaire. Voilà. Donc, pareil, le métier de chargé de diff, pour vous, c'est clair aussi. C'est moi, je dis comme ça, mais c'est vrai, c'est votre vendeur. C'est le vendeur de votre spectacle. Après, par contre, ça nécessite tout un tas de compétences qui sont bien plus compliquées que de la vente pure. Mais c'est la personne qui va d'abord essayer de convaincre tout le monde, tous les professionnels et les programmateurs de spectacles de France et de Navarre, de venir vous découvrir lors de votre exploitation à Paris ou à Avignon ou en tournée. Donc, la première mission, c'est de faire de la prospection pour les convaincre de venir. Une fois qu'ils sont venus, c'est de les accueillir et de les chouchouter un peu. Ensuite, c'est de les convaincre d'acheter le spectacle. Et là, du coup, ça rentre dans tout un tas de négociations, de l'ordre du prix de vente du spectacle, des conditions de tournée, de la période, etc., etc. Et donc, c'est à ce moment-là que votre chargé de diffusion est aussi votre meilleur interlocuteur pour ce qui consiste entre le maintenant de vous et la tournée plus tard pour le spectacle. Et c'est aussi un moment assez essentiel que beaucoup de compagnies négligent beaucoup. Il faut absolument, quand vous imaginez le prix de vente de votre spectacle, le faire avec et vraiment en collaboration avec votre chargé de diffusion, parce qu'il a forcément un avis dessus. Et s'il connaît bien son métier, pour lui, ça va être un outil essentiel. Un spectacle qui se vend au bon prix, c'est un spectacle qui la plupart du temps tournera évidemment plus. Et c'est de la même façon, celui qui va vous dire qu'il n'est pas nécessaire de brader votre spectacle. S'il ne se vend pas, c'est peut-être qu'il est mauvais.
Ça, c'était cadeau.
Et du coup, il y a aussi des compagnies qui, parce qu'elles ont beaucoup de spectacles et que c'est possible et qu'ils ont plein d'argent, eh ben, ils peuvent internaliser la diffusion et auquel cas ils lui font un contrat horaire. Ça, c'est l'entendement. En revanche, c'est quand même beaucoup plus sain de donner un fixe au départ. Parce que alors là, sinon, si vous voulez être sûr de ne pas pouvoir faire confiance à votre chargé de diff, voilà. Moi, je trouve que ce n'est pas sain, en fait, de démarrer à zéro et de ne fonctionner qu'aux commissions. Alors, un prix de vente en tournée. Toujours pareil. Alors là, par contre, on fonctionne au cachet. Donc là, on n'est pas du tout sur un volume de répétition fois le prix horaire, fois le nombre de jours, etc. On va dire, donc pour les artistes, c'est le régime intermittent qui détermine ça. C'est qu'on fonctionne au cachet. Donc un cachet, c'est une représentation. Et un cachet pour une représentation, c'est 12 heures. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer 12 heures. Hein. C'est juste la requalification Pôle emploi. Parce qu'on considère que le déplacement, le temps de travail, les raccords, le filage au plateau, etc., etc., c'est une douzaine d'heures en tout, mis bout à bout, même si le spectacle n'en dure que deux. Quoi qu'il en soit, en termes déclaratifs, un cachet, c'est 12 heures. Le cachet, le minimum légal hors convention, bon, bah, c'est le SMIC horaire x 12. Ma convention, par exemple, c'est 151,22 euros brut par comédien, par cachet, par représentation. Pareil, s'il l'accompagne en tournée et si c'est la négociation que vous avez avec lui, il y a le salaire, le cachet du metteur en scène. Mais il arrive de plus en plus souvent que le metteur en scène soit plus en cachet. En tournée, il est en droit. C'est parce qu'il est auteur de la mise en scène, donc il a des droits d'auteur. Donc c'est pas du salaire, c'est pas un cachet, ce sont des droits. On ne va pas rentrer dans ces détails, ça va devenir très compliqué, mais juste intégrez-le, parce que peut-être un jour, vous aurez le cas de figure. Si vous allez sur le site de la SACD, que vous tapez « droit de mise en scène », vous avez toute l'explication. À ce propos, le site de la SACD est très, très, très bien fait, en termes de tutos sur les droits, les codes de propriété intellectuelle. Je vous incite vraiment à le googliser un maximum quand vous avez des doutes là-dessus. Et de la même façon, la SACD sont des gens qui répondent bien au téléphone et qui sont assez pédagogues contre toute attente. Donc n'hésitez pas à les appeler, ils sont payés pour ça. Ensuite, les salaires techniques. Donc eux, ils ne sont pas en cachet parce que ce ne sont pas des artistes, les cachets étant réservés aux artistes. Eux, ils sont en service. Et les services, c'est par tranche de 4 heures. Un service technique, ça n'est jamais moins de 4 heures. On ne fait pas de déclaration à l'heure. Ce n'est pas parce que le spectacle dure 1h30 qu'on fait un contrat d'1h30 à notre régisseur. Et c'est pareil, on comprend tous pourquoi. Il va de soi que ce n'est pas très normal un contrat d'1h30. Donc, le code, au regard du régime intermittent, impose des services minimum de 4 heures. Et alors, la plupart du temps, pour un régisseur, on l'estime en service donc, on estime souvent un service de montage en fonction du volume de montage. Donc, par exemple, si vous avez une journée de montage, bah, ça va être deux services de montage. Si vous avez deux jours de montage, bah, ça va être quatre services. Et après, on compte un service pour la représentation, parce que ça comprend souvent le démontage qui, lui, est très, très, très rapide. Et là, on va être, moi, dans ma convention, à 12,75 € brut de l'heure. Pour toutes les grilles de convention collective, vous y avez accès sur Internet en téléchargement ou en appelant la convention en question en me demandant de vous l'envoyer. Ils vous envoient des grilles qui sont soporifiques. C'est parfait en cas d'insomnie. Mais surtout, il ne faut pas hésiter à s'y référer. Ça donne de bonnes heures d'idées. Donc, dans un prix de vente, ensuite, il y a le prix de communication. Alors ça, c'est une enveloppe qui est souvent un petit peu plus symbolique qu'autre chose. Mais c'est parce que bien souvent, les villes dans lesquelles vous allez jouer aiment beaucoup que vous leur envoyez quelques affiches. Donc, c'est le coût de quelques impressions et un envoi postal. Et éventuellement, parce que ça arrive, il y a certaines compagnies qui ont, par exemple, un community manager qui va buzzer un petit peu tout au fil de la tournée et animer une page Facebook, etc. Bon, bref, moi, je mets toujours une petite enveloppe de com. De même, il y a le prix d'une assurance annulation. Parce que, bon, bah, la plupart du temps, on n'a pas les moyens de se l'offrir quand on démarre, mais c'est quand même un truc à quoi il faut penser assez rapidement, c'est que quand on vend un spectacle, par contrat de session, on se doit de représenter le spectacle. Si vous êtes coincé à cause de la neige ou que l'un de vos comédiens se pète la jambe la veille et que vous ne pouvez pas jouer, vous devez rembourser à l'organisateur tous les frais qu'il a engagés. Alors déjà que vous n'encaissez pas votre prix de session, et en plus vous lui en devez, donc il faut quand même faire attention avec ça. Alors que le prix d'une assurance annulation sur un petit spectacle, généralement c'est assez symbolique, quoi. C'est pas énorme, mais il faut y penser quand même. Et ne pas rouler quand il y a de la neige. Et après, moi je mets toujours une enveloppe de régie divers et consommable. Donc là, ça va être un peu de pressing, du rachat de maquillage. Parfois, il faut racheter des gélates au long de la tournée ou vous utilisez du faux sang. Ça coûte hyper cher chez Pyrofolis, donc il faut prévoir un petit peu, etc. Voilà. Donc, un petit budget régie divers et consommable. Les frais d'administration de la tournée. Donc là, c'est l'administrateur qui fait votre feuille de route, qui prépare tout ça, qui rédige le contrat de session, qui fait une facture, qui encaisse les frais, qui fait les virements de salaire, tout ça, l'administration de tournée. Donc tout ça, ça vous donne un coupletto. Sur ce coupletto, vous définissez un prix de vente qui est évidemment au-dessus, puisqu'il faut marger pour la compagnie, parce que l'objectif en fait de cette marge, c'est d'apurer le déficit de votre création, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est là où on arrive au point d'équilibre de la tournée. Donc en fait, au début, cette marge, ce n'est pas votre bénéfice pur, c'est ce qui vous permet de rembourser votre création. Après, ça devient un bénéfice. En tout cas, du coup, je vous donne un ordre d'idée. Pour un coupletto à 5000 balles, je préconise par exemple un prix de vente à 7500. Parce que dessus, vous avez donc, on pense qu'il y a une marge de 2500 euros. Mais en réalité, non. Parce que dans cette marge, vous intégrez, il vient entre les deux, la commission de la diffusion. Puisqu'évidemment, vous avez tous un chargé de diffusion. Et là, la commission, l'usage moyen, c'est 10%. Donc, sur un prix de vente à 7500 euros, ça va faire 750 euros. Donc, en fait, vous n'avez plus 2500 euros. Et après, sur ce qu'il vous reste, c'est pour vous rembourser ou, si vous avez déjà tout remboursé, et c'est fabuleux, pour marger un peu et pour mettre de côté pour vos 12 prochaines créations. Mais aussi, si vous avez des coproducteurs, c'est une marge que, bien souvent, il faut partager. Donc, de toutes les façons, c'est jamais aussi simple que ça. Une fois qu'on a monté son budget, on a plein de fichiers Excel, on a plein de dossiers sur le bureau de son ordinateur, mais en fait, on n'a pas vraiment commencé pour de vrai. Et donc là, consiste en la partie pragmatique, matérielle et de mise en œuvre des choses. Et là, le premier point de départ, c'est le poste de Justine au bureau de production, c'est de réunir les éléments de communication et la constitution du dossier, de tout ce qui va en fait vous permettre de pouvoir parler de ce que vous faites, que ce soit à votre équipe, que ce soit à vous-même des fois, c'est important de se parler, ou à vos coproducteurs, à vos recherches de partenaires, à convaincre les lieux de diffusion, etc. Et donc, par exemple, ce dossier, c'est... le premier élément, tu m'arrêtes si je me trompe, pour moi, c'est le dossier. Le dossier, il réunit donc une note d'intention. Souvent, c'est le metteur en scène et ou l'auteur. Une espèce de punchline, c'est-à-dire un truc, un pitch un peu fort qui va donner en 10 lignes, et on a bien dit 10 lignes, la température, même la couleur de votre spectacle, ce que vous avez envie de proposer comme objet scénique, comme objet spectaculaire. L'histoire, parfois, c'est bien de dire un peu l'histoire du projet ou de la compagnie, si elle a un truc, quelque chose d'un peu atypique ou si elle a été conçue dans un contexte particulier. En tout cas, c'est toujours bien de mettre une petite note. Après, c'est pas la peine de raconter les histoires de... Voilà, mais voilà. Le CV des membres de la compagnie, donc le metteur en scène, etc., les artistes, les créateurs techniques, etc., etc. Évidemment, ça sert à rien de mettre le CV de Molière. Hein. Et là, moi, j'aime beaucoup. C'est pas obligé. Je pense que tout le monde n'aime pas, mais moi, j'aime bien quand on n'a rien et qu'on part de zéro, mettre un peu des visuels d'inspiration qui donnent un espèce de champ lexical à votre projet. Éventuellement des croquis de costumes, des croquis de scéno, etc. Et j'aime assez, il ne faut pas que ce soit des photos portraits en pleine page, mais j'aime bien qu'il y ait un espèce de trombinoscope de la distribution, parce que souvent ça donne un peu la couleur du projet aussi, d'avoir une idée. Et en plus j'en témoigne quand on a des projets qui nous sont soumis, et encore plus quand on est une jeune compagnie, on s'attend très souvent à ne voir que des tout petits jeunes. Or c'est bien... je dis une bêtise, mais si vous avez un comédien de 65 ans, s'il s'appelle Laurent Lucas, on ne peut pas dater son âge, quoi. Donc du coup, c'est bien toujours de mettre des vignettes. Et après, c'est souvent donc la responsable de com qui va composer le dossier et ensuite qui se fait le relais pour ce qui consiste en créer l'affiche, le visuel du spectacle. Donc ça, c'est pareil, je trouve que ça donne tout de suite une belle identité au spectacle. Moi, j'aime bien le faire le plus vite possible. Mais des fois, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on est passé sur la com, on a... Un truc hyper important, parce qu'en fait, ça a l'air peu de choses comme ça, mais c'est un outil indispensable pour avancer beaucoup plus vite et gagner du temps. On compose ce qu'on appelle une bible de production. Une bible de production, c'est tout bête. C'est une grille Excel avec la liste de toutes les personnes qui travaillent sur le projet à chaque poste. Et donc, la grille, elle dit... Brad Pitt, comédien. J'arrivais pas à trouver un truc. Son numéro de sécurité sociale, son adresse, son mail, son numéro de téléphone, le rôle qu'il joue éventuellement et s'il a un agent. Et évidemment, Brad Pitt a un agent. Le technicien, son nom, son adresse, etc., etc. Voilà. Et en fait, c'est une bible que tout le monde peut avoir. Comme ça, non seulement tout le monde peut se contacter entre eux, c'est-à-dire que le régisseur son, il sait à tout moment comment joindre régisseur général. Comme ça, la responsable de prod, elle peut à tout moment joindre un tel comédien. Et en plus, au-delà de tout ça, l'administrateur et le responsable de prod peut préparer les contrats, éditer les fiches de paye et tout. Ça, vous le faites dès que possible. Comme ça, en fait, après, vous êtes tranquille pour toujours. Et tout le monde dispose de toutes les informations et ça évite de s'échanger des fiches iPhone du début à la fin de la création. Donc voilà, ensuite, donc on organise une petite lecture en interne. Après, on peut aussi organiser une lecture un peu plus publique. Alors, ça ne veut pas dire public en mode avec tout le monde, mais ça veut dire public avec des éventuels partenaires à qui on veut convaincre d'accompagner le projet. Par exemple, un producteur qui a plein de sous à dépenser, un mécène ou des tutelles de subvention ou des préacheteurs. Et auquel cas, on organise une lecture publique. Donc, par exemple, ça arrive des fois au Théâtre de Belleville. Ça peut arriver aussi dans une salle de lecture tout court. Enfin, bref. Et ben là, on va inviter des professionnels. Hein. C'est pas fait pour proposer à des spectateurs. Mais en tout cas, on invite des professionnels pour les convaincre d'accompagner notre production. Et bien souvent, c'est extrêmement précieux et effectivement, ça peut déclencher tout un tas de choses. Et c'est souvent un petit peu le coup d'envoi, le starter du projet. Moi, je trouve que c'est assez important de le faire, même s'il n'y a personne d'ailleurs à inviter, je préconise de le faire. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un truc hyper fédérateur et tout, mais je trouve que ça marque un coup d'envoi, quoi. Et c'est là, d'ailleurs, où aussi, par exemple, on peut inviter notre chouchou, le chargé de diffusion, parce que c'est aussi le moment où lui, il va sentir le texte et pouvoir, si le spectacle est en création, vous dire s'il aime et s'il se sent capable de le défendre. Donc c'est bien souvent le moment où il commence à mettre un pas dans l'équipe et où il faut du coup l'intégrer à l'équipe. Parce qu'après, son vrai boulot à lui, c'est à partir du moment où l'exploitation commence, où il peut montrer le spectacle. Mais en tout cas, le moment où on l'intègre à l'équipe et où on commence à compter sur lui et à sentir si lui, c'est possible et si lui, il en a envie... Eh ben, c'est souvent à cette étape de la lecture. Donc, même si c'est que pour le chargé de diffusion, c'est bien de faire une lecture. Donc là commence tout un espèce de balai logistique à mettre en place, de trouver des lieux de répétition, de monter un planning de résidence. Alors là, évidemment, c'est le moment où on se casse la tête avec les indisponibilités de tout le monde et on essaye de trouver des créneaux compatibles. À superviser et à gérer des commandes de matériel pour les créateurs, à valider leur budget, à leur dire oui, non, tu peux, non, tu peux pas. Non, tu n'as pas 6000 euros, tu n'as que 500 euros. Non, je ne ferai pas d'effort. Et voilà, c'est à vous, un peu, à la production, de tenir cette tirelire, parce que bien souvent, c'est hémorragique, et malheureusement, avec toute la bienveillance et la compétence et la bonne volonté qu'ils ont, un scénographe, c'est pas du tout à lui d'être soucieux de votre budget, en fait. C'est à vous d'être soucieux de ce budget, et à faire de la pédagogie avec lui, et à tenir ça, et à lui rappeler tout le temps que non, il ne peut pas dépasser, et non, il ne peut pas faire d'achat sans avoir validé avec vous que c'était possible. Et donc là, c'est un petit peu une période compliquée, toujours, qui est faite de négociations de vous-même avec l'équipe. Et c'est aussi le moment, d'ailleurs, par exemple, où on négocie les salaires de l'équipe, où on dit à un comédien, non, je ne peux pas te payer 2000 euros par représentation. Je vais devoir rester au minimum syndical. C'est aussi, par exemple, le moment où, quand il a un agent, on négocie avec l'agent, ou alors on négocie avec le comédien, que l'agent n'intervienne pas. Ça peut être compliqué. Et c'est pour ça que dans nos métiers, les agents sont plutôt des ennemis. C'est là aussi, pardon, où on évoque les conditions d'embauche. Parce qu'un petit nota bene, qui est très très important, moi j'ai à cœur de chouchouter les équipes à tous les postes. Une négociation et des conditions de travail, ce n'est pas du tout juste un salaire. C'est des conditions, ça veut dire des horaires. Ça veut dire est-ce qu'on vous fait une table régie. Ça veut dire est-ce qu'on vous loue une voiture quand vous rentrez tard le soir de Trifouilly-les-Oies. Ça veut dire est-ce que vous dormez à 15 par chambre au Festival d'Avignon avec des matelas par terre ou est-ce que vous avez une chambre à vous qui ferme. Ça, c'est aussi des conditions de travail. Ça peut paraître peu de choses, mais c'est aussi important que le salaire. Et en parler dès le départ avec transparence, quand on a expliqué à une équipe pourquoi ils étaient deux dans une chambre pendant un mois au Festival d'Avignon, ils sont capables de tout entendre, mais si ça n'a pas été fait dès le départ, et si ce n'est pas vraiment entendu en équipe, sereinement et en transparence, ça peut très très vite vriller. Et moi, j'ai vraiment, pour ceux qui vont se diriger vraiment vers la production pure ou qui ont envie que le process de, comment dire, la vie de votre compagnie et de votre production soit saine, c'est vraiment des trucs où il ne faut pas du tout parler que de salaire, en fait. Vous ne pouvez pas négliger ces paramètres-là et je ne peux que vous inviter à en tenir compte et à considérer que c'est des données extrêmement précieuses. Et qu'en fait, un comédien, il va être capable, un technicien, il va être capable de tout entendre à partir du moment où c'est dit dès le départ et que c'est bien expliqué. Et puis d'ailleurs, c'est le moment où ils peuvent vous dire « Ah ben non, ça ne me convient pas, je ne participe pas. » Et auquel cas, c'est le moment où vous avez le temps de vous retourner. Si vous ne l'avez pas fait à ce moment-là, c'est un coup à vous, ce qui vous claque dans les doigts la veille de la première. Alors là, ça pique. Sachant que tous ces paramètres-là, bon, bah, alors évidemment, on ne parle pas de matelas par terre dans un contrat, mais c'est des choses qui ensuite peuvent être mises au contrat. Le fait du système locatif au Festival d'Avignon, c'est des termes qui peuvent être parfaitement juridiques dans un contrat d'engagement. Et donc, c'est là où le responsable de production, à cette étape, il a vraiment un espèce de rôle de chef d'orchestre et de médiateur à la fois. Il est aussi un peu assistante sociale. Si c'est possible, c'est là où son meilleur ami, c'est l'assistant à la mise en scène. Parce que du coup, l'assistant à la mise en scène a fait un peu le tampon. C'est-à-dire que le responsable de prod, il est le messager côté production vers l'artistique. Et l'assistant à la mise en scène, elle est le messager de l'artistique vers la production. Donc souvent, ils sont très, très, très copains. Ils boivent beaucoup de bière. Parce que du coup, c'est aussi le moment où il y a une espèce d'intensité humaine qui peut être à la fois électrique dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Et c'est à vous de la maîtriser et de la canaliser et d'être extrêmement à l'écoute de tout ça. Et en fait, la meilleure écoute de tout ça, vos yeux et vos oreilles, c'est l'assistant à la mise en scène. Du coup, si ce n'est pas l'assistant à la mise en scène, ce sera le metteur en scène. Sauf que lui, il ne peut pas beaucoup boire. Et donc, c'est là aussi où on fait beaucoup d'ajustements. Et donc, on arrive au jour de la première, début de l'exploitation. Donc là, on a un lieu. Donc encore une fois, à Avignon, à Paris ou en tournée si on crée en tournée, ou à Bordeaux si on est en lieu fixe à Bordeaux. Et c'est là où le chantier de deux chantiers qui démarrent, qui sont essentiels et dont c'est le coup d'envoi, c'est la communication et c'est la diffusion. Donc la communication, c'est un vers les professionnels, deux vers le public. Donc tout ça à partir du visuel, de l'affiche. Donc de l'affichage, du tractage, etc. Des éventuels achats d'encarts de presse, blablabla. Mais aussi vers les professionnels, donc définir un petit peu de documents, d'outils qu'on va mettre en place. Donc les outils de communication vers les professionnels, c'est le mailing. Donc là, la personne à consulter, voir à qui vous devez faire confiance pour le faire le mieux du monde, c'est le ou la chargée de diffusion. Mais ça va être aussi par exemple l'envoi de cartons d'invitation à destination des professionnels si vous avez des sous pour ça, l'envoi de dossiers, etc. Et c'est aussi le moment où si par exemple le jour de la première vous avez, ou même par exemple à la générale vous avez pu faire peut-être une captation, c'est un outil extrêmement précieux pour la diffusion, parce que quand il a du mal à convaincre les programmateurs de venir, envoyer un teasing, c'est super chouette. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, un bon vidéaste avec deux caméras qui travaille très très bien, il va vous coûter entre 700 et 800 euros avec un montage. C'est une enveloppe, mais c'est un outil tellement précieux et de surcroît qui va vous servir pendant toute la tournée de votre spectacle que je préconise de ne pas le négliger si vous pouvez le mettre. Alors justement, je fais une ellipse, j'y avais pas pensé, mais il y a aussi ce qui est bien d'envisager, là c'est juste un petit conseil, il y a trop peu de compagnies qui le font. Avant la première, c'est toujours très très bien d'envisager ce qu'on appelle un rodage. Et un rodage, ça peut être soit sous la forme de sortie de résidence, soit d'aller jouer devant un petit public, dans un petit lieu, dans une scène qui n'est pas une salle qui n'est pas forcément ultra fréquentée, mais ce qui permet en fait de sentir un peu son spectacle et de faire des ajustements. Arriver au théâtre de Belleville ou n'importe où ailleurs sans avoir jamais joué le spectacle, franchement, c'est couillu. C'est pas forcément préconisé. pareil, c'est au responsable de production ou à la production de négocier quand même ses conditions, justement. Donc, par exemple, dans le cas d'une choréale, il y a plein de salles qui ne négocient plus et c'est normal parce que ça devient extrêmement compliqué, mais il est toujours, enfin, il est parfois possible de négocier le minimum garanti en faveur de lieu ou en faveur de l'équipe. Même de négocier qu'il n'y en ait pas, de négocier la répartition des recettes, 50-50, 30-70, 60-40, etc. De négocier le prix des billets, parfois. Je vous le dis tout de suite, ici, ce n'est pas possible. Mais non, mais il arrive dans certaines salles, et c'est parfois vital pour la production qu'on puisse le négocier. Et par exemple, à Avignon, pareil, c'est rarissime, mais dans un contrat de location ou de mise à disposition au sens très large, il est possible de négocier le montant de la location, le prix des billets vendus, etc., etc., les conditions d'accueil, tout ça. Sachant que quand on est en location et que ça n'est pas le lieu qui gère, et que vous louez un espace et que vous gérez votre billetterie, là, la production, il y a un paramètre quand même qu'il ne faut pas non plus trop oublier. C'est tout ce qui concerne le paiement des taxes, parce que du coup, ça va gréver votre budget de façon assez sérieuse. C'est-à-dire que quand vous recevez tout seul toute la recette de la location d'un festival d'Avignon, et je dis une bêtise, vous avez 15 000 euros de recettes, rapidement, entre les droits d'auteur, les droits SACEM, la taxe sur les spectacles et la TVA, si vous n'êtes pas assujetti, vu que vous devez quand même la payer, vous avez rapidement un budget à compter de taxes. Donc moi, en général, je mets une ligne taxes diverses. Pour les compagnies qui sont dans ce cas-là ou que j'accompagne, parce que sinon je le déduis direct de mes recettes, enfin bref, et ben, sur un budget de 15 000 euros, ça peut très très vite monter à 3 000, voire plus. Donc il ne faut pas le négliger, parce que vous n'arrivez pas du coup 15 000 euros, en réalité vous comptez, donc ça c'est ce qu'on appelle les recettes brutes, mais en réalité vos recettes nettes, elles ne sont pas de 15 000, elles sont de 12 000 par exemple, donc il faut quand même le compter. Donc pareil, alors là, vous êtes en exploitation, donc votre attaché de presse, ou si vous n'en avez pas, ça se fait spontanément, naturellement, ou c'est la communication qui se fait le relais, mais vous commencez à avoir de la presse et c'est super. Et donc, vous composez évidemment un dossier de presse qui sert également d'outil au responsable de diffusion qui peut l'envoyer pour toujours, comme on disait tout à l'heure, convaincre de venir. Et en plus, de toute façon, la presse, ça fait aussi venir non pas seulement des professionnels, mais des spectateurs. Et donc, quoi qu'il en soit, il y a une tenue à jour de la documentation qu'il est important de faire. Pareil, quand on commence à faire des photos et qu'elles sont de qualité, on les intègre au dossier, on en envoie, etc., etc. Et donc, on arrive enfin d'exploitation. Donc, on fait là déjà, on fait ce qu'on appelle un analytique du montage et de l'exploitation si elle est terminée. Et donc, en fait, on est au réel de nos dépenses. C'est-à-dire, on avait un budget de dépenses sur toute l'opération de 50 000 euros, et donc on arrive au réel. Alors soit, bah, bravo, super, vous êtes très économe, vous êtes à 46 000 en réalité, sinon, bah, c'est un peu moins cool, vous êtes finalement à 55 000 parce que bah, c'était nécessaire et que vous n'avez pas eu le choix. En tout cas, vous pouvez déjà faire ce qu'on appelle une reddition des comptes. Donc vous faites un point et vous savez à peu près où vous en êtes. Sachant que j'y viens juste après, vous aviez, quand vous avez monté votre budget de dépenses, vous l'avez mis quand même en miroir de vos produits espérés. Il faut toujours, quand vous montez un budget de production, avoir les recettes, les produits espérés. Je viendrai ensuite sur ce que c'est que les produits, parce que je vais faire une partie sur les financements différents. J'ai voulu le mettre de côté. En tous les cas, quand vous montez votre budget, vous avez déjà vos produits. Même s'ils ne complètent pas de votre budget et qu'il est déficitaire, en tout cas, vous avez cette partie-là, vous l'avez considérée. Parce qu'il va de soi que sur une production à 55 000, je vous souhaite de pas compter que sur votre portefeuille, quoi. C'est évidemment qu'il faut aller chercher des financements. Mais on y vient. En tout cas, vous avez un analytique de vos dépenses. Donc un budget réel. C'est la même chose, hein, analytique. Et donc, vous avez aussi un résultat. Puisque, on y viendra, mais vous aviez déjà des produits à mettre en face. Donc les produits, c'est vos subventions, vos recettes, etc. Et donc, en fait, toutes vos dépenses moins vos recettes, ça vous donne un résultat. Très souvent, il est déficitaire. Et c'est pour ça que la tournée va vous permettre de le mettre à zéro en apurant le déficit. C'est l'amortissement des pertes, quoi. Mais donc, ça vient un peu plus tard. En tout cas, vous avez un résultat très souvent négatif, parfois à zéro, parfois positif, beaucoup plus rarement. Et là, donc, on arrive au début du chantier de diffusion. Donc là, la plupart du temps, c'est le moment où toute l'équipe prend des petites vacances, mais pas le chargé de diffusion, parce que lui, c'est le moment où il est dans les relances, dès que possible, des ventes, et donc la construction du planning de tournée. Donc là, eh ben, c'est ce qu'on appelle les relances de phoning. Maintenant que les professionnels sont venus, c'est les convaincre qu'ils ont aimé ce spectacle, mais c'est pas tout. C'est le spectacle qu'il leur faut dans leur saison. Et donc, du coup, ils vont tout faire pour que le spectacle soit vendu et donc mettre en place un devis, puis un contrat de session, etc. Et après, c'est l'administration de tournée qui prend le relais. Donc la plupart du temps, la saison suivante. Et donc là, une fois que la tournée est construite, par le chargé de diffusion, le tourneur, etc. L'administrateur de tournée prend le relais, met en place une logistique de déplacement, d'accompagnement éventuellement, des feuilles de route, etc. etc. Du coup, j'avais envie de vous proposer une pause et de faire les financements juste après.
Je suis en dernière année d'école de théâtre et je suis en train de monter un projet, aussi le premier projet, et du coup, mon école, on n'est pas vraiment formé sur toutes ces questions administratives, juridiques, qui en fait sont essentielles. Et du coup, voilà, je suis venue à la pêche aux infos.
T'es en école de théâtre là, en ce moment ? À quelle école ?
Je suis au cours Cochet.
Et tu fais la mise en scène de ton spectacle ?
Ouais, on a un module de mise en scène, donc on présente une maquette, bon, à titre d'exercice en fin d'année, de 20 minutes du projet qu'on veut monter, mais j'aimerais bien le développer un peu plus après l'école. Et donc, voilà, comment se professionnaliser.
C'est vraiment un aspect pratique qui manque dans les
ouais,
cours.
Complètement. C'est ça qui manque. C'est, on est formé sur l'interprétation et sur tout ce qui est jeu et artistique. Mais après, quand il s'agit de développer vraiment et de le concrétiser, on est un peu paumé parce que les infos, on les a pas ou on ne sait pas où chercher vraiment. Et voilà, donc c'était très clair et merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a un truc que tu as retenu qui t'a vraiment servi aujourd'hui?
Tout ce qui est un peu où choper des subventions, surtout comment établir son budget, à quoi penser exactement, à peu près aussi des fourchettes de budget, parce que c'est vrai que c'est des choses que on n'a pas quand on démarre, on n'a pas encore forcément l'idée de combien ça va coûter tant qu'on n'a pas démarché les gens et tout, donc ça donne un ordre de grandeur quoi, et ça c'est important.
Là, c'est plus vraiment dans un souci chronologique, mais donc je voulais vous faire un petit point sur, pour votre production, les financements. Alors ça, c'est un domaine, je veux dire, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de fixé, il n'y a pas de méthode particulière, parce que c'est un champ extrêmement vaste. Les financements, ça dépend beaucoup de votre structure, de votre projet, de vos capacités et tout, mais je vais quand même essayer de lister une partie des financements. Que vous pouvez intégrer donc à votre partie produit dans le budget que vous avez construit. Ce peut être des producteurs. Donc des producteurs, c'est vaste. Ça peut être soit des lieux, soit des financeurs, donc des producteurs en numéraire avec qui vous vous associez pour avoir une enveloppe d'argent un petit peu plus épaisse, comme une société privée, une structure de production qui est prête à investir dans votre création. Ce peut être, pour les financements, le préachat. Donc, par exemple, si sur dossier, vous arrivez à vendre des dates de session avant même qu'ils ne soient créés, parce que ces gens-là vous font confiance, parce que ces gens-là manifestent un intérêt pour le projet déjà sur dossier, et bien dans ce cas, vous faites des préachats. Et en fait, cela permet pour vous, en distinguant le coût plateau du prix de prévente. Eh bien, en fait, donc, ça vous donne une différence. Et cette différence, qui est donc un produit, peut venir investir dans la production. C'est qu'en gros, cette marge, quelque part, vous comptez dessus avant même que le spectacle soit créé. Donc, évidemment, le spectacle se jouera bien plus tard. Et ce jour-là, vous avez prévu de mettre de côté le coût plateau pour financer la représentation. Mais la marge qui est déjà générée, puisque c'est une prévente, vous pouvez l'investir dans votre création, et auquel cas vous demandez à ces préacheteurs, autant que possible, de faire un acompte. Et donc en plus, ça vous donne un peu de trésorerie, parce que de la trésorerie, vous en avez rapidement besoin, bien sûr. Ça peut être des mécènes, parce que, je dis n'importe quoi, vous développez un sujet autour de la maladie d'Alzheimer. Vous savez par exemple que c'est, comme c'est un sujet quand même d'utilité publique, à traiter culturellement, et bien du coup vous pouvez avoir des mécènes qui ne sont pas forcément des mécènes de la culture mais qui ont envie d'investir parce que ce sujet les anime, les touche et qu'ils vont vouloir promouvoir ça. Mais ça peut aussi être des mécènes qui n'ont rien à voir avec tout ça, comme par exemple pour en citer un parmi mille autres, Vinci, le groupe Vinci est un mécène pour beaucoup de projets culturels, parce qu'en fait, pour ces structures qui sont des structures juste mécènes financiers, en fait, à eux, ça leur permet de défiscaliser le don qui est fait en mécénat. Ça peut aussi être du don, bien sûr, ou alors après, on va très loin du crowdfunding, Ulule et tout ce qui bouge. Voilà, en tout cas, sachant que le crowdfunding est en fait implicitement, c'est du mécénat, en quelque sorte. Et après, il y a tout ce qui est subvention. Alors, les subventions, il y a plusieurs catégories. Je vais être assez synthétique, hein, parce que sinon, il y en a pour 1000 ans. Sachant que les sources de subventions en France et pour le spectacle sont vraiment, vraiment, vraiment très nombreuses. Vous n'imaginez pas à quel point il y en a. Et donc, en fait, il ne faut pas partir du principe que c'est trop compliqué et vous n'y arriverez pas. Les subventions, vous pouvez toujours en trouver. Elles sont extrêmement vastes. Après, il faut répondre à des critères d'éligibilité, bien entendu. Et la plupart du temps, les critères d'éligibilité sont avant tout basés sur les conditions d'embauche de votre équipe, puisque c'est pour respecter ça que les subventions sont conçues. Mais aussi, parfois, il faut avoir un nombre de dates minimum, etc. Enfin, il y a toujours des trucs à tiroir très compliqués. Donc, en tout cas, des subventions, il en existe beaucoup. Donc, les premières qu'on connaît et c'est les premières qu'on vise, hein, bien souvent, ce sont les subventions publiques. Donc, les subventions publiques, ça veut dire, par exemple, la ville, le département, la région, la DRAC, le ministère, etc., etc. Donc, toutes les tutelles publiques qui ont des enveloppes d'argent public à flécher sur la création théâtrale et donc auxquelles vous pouvez, dès le départ, candidater. Un petit conseil. Très souvent, quand on démarre avec une structure toute neuve, un premier projet, on a très peu de chances d'avoir une subvention publique. Et du coup, on ne la dépose pas parce qu'on se dit on a peu de chances de l'avoir, ils ne vont pas nous remarquer, on n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. C'est une erreur. Moi, je conseille de la déposer le plus vite possible, dès la première création, parce que certes, vous ne l'aurez pas, mais c'est à force de les déposer qu'on finit par les obtenir et se faire remarquer. Et pour les obtenir le plus vite possible, ce qu'il faut, c'est se tenir au courant des jurys de commission de ces aides publiques. Et dès que possible, par exemple, je pense à la DRAC pour l'aide au projet, il y a ce qu'on appelle la commission des experts. Et ben, dès que possible, même si vous savez que vous n'aurez pas l'aide au projet sur votre première création, dès que possible, attirez l'attention de tous les experts dès votre première création. Parce que vous ne l'aurez pas, mais les experts vous repèrent. Et petit à petit, bah, à la troisième ou quatrième création, vous finissez par la décrocher. À tort, beaucoup de compagnies demandent au chargé de diffusion de s'en occuper. C'est pas du tout à propos. Le chargé de diffusion, je rappelle qu'en fait, lui, il vit grâce à ses commissions. Étant donné que ça ne génère pas de vente, il n'a pas lieu de demander au chargé de diffusion de s'en occuper, sauf s'il est intéressé à la subvention décrochée. Mais c'est un peu compliqué. Enfin, pour moi, c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas très à propos. Donc, s'il n'y a pas de responsable de production, parce que c'est à lui de le faire, eh bien, auquel cas, c'est au metteur en scène ou au directeur de la compagnie de s'en occuper. Mais je trouve ça un petit peu décalé et un petit peu abusé, parce que c'est souvent l'usage, mais je ne trouve pas que ça se fasse, de demander au chargé de diffusion de faire ça. Parce que le chargé de diffusion, il a déjà beaucoup de boulot, et c'est bien qu'il se concentre sur ses propres tâches, en fait. Il ne faut pas tout mélanger. Les bourses, alors les bourses par exemple, donc il y en a pareil, il y en a 1000, hein, mais dans les diverses bourses, celle qui est la plus célèbre et qui est fléchée sur l'écriture, c'est la SAC des Beaumarchais, qui est très simple à déposer. Il suffit d'avoir un texte et que ce soit un texte original qui n'a jamais été monté. Donc ça par exemple, c'est un peu la première subvention des jeunes compagnies qui écrivent eux-mêmes leur texte. Et si votre texte est qualitatif, ben, des fois il y a des textes de pur inconnu qui gagnent d'un coup 3 200 €. Donc c'est cool, ça donne un petit starter pour financer ne serait-ce que les premières lignes de vos budgets de dépenses, quoi. Ça, c'est un petit starter assez sympa en termes de produits. Il y a les EAT, écrivains associés au théâtre, je crois. Je sais qu'ils ont une bourse, je la connais pas bien celle-là, mais je sais qu'elle existe. Il y a la bourse des ATP, c'est les amis du théâtre populaire. Bon, voilà, je vous conseille toujours, pareil, Google, bourse théâtre, avec, si besoin, votre localité, parce que c'est parfois par région, etc. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité, déposer des bourses, des demandes de bourses dès que possible. Sachant que, pour la petite info, la SAC des Beaumarchais, quand le texte est retenu, c'est 3 200, même s'il n'est jamais monté. Ça, c'est clair. Et après, avec les 3 200, si vous le montez et que derrière, vous êtes retenu par le jury et que vous avez au moins, je crois, 8 dates de programmer, 8 dates fixes, eh bien, vous pouvez avoir dans la continuité de la SACD Beaumarchais l'aide à la production, qui fait partie, en fait, qui émane de la bourse à l'écriture. Et là, c'est 7500 euros en plus. Ah oui, c'est pas exactement une bourse, mais ça en fait partie, et c'est pareil, c'est fléché sur l'écriture. Il y a anciennement CNT, et maintenant ça s'appelle Arsena. Pareil, donc ça, c'est une bourse à l'écriture. Et par contre, là, il faut, en tout cas, en fait, la bourse, elle est attribuée, mais l'argent n'est alloué qu'une fois que le spectacle joue quelque part et est monté. Et c'est encore plus compliqué. Le site de Arsena est très bien fait, d'ailleurs, si vous voulez voir. Et au passage, Arsena, au-delà de cette bourse, Arsena, c'est aussi un support très important C'est un très bon interlocuteur du spectacle vivant. Et ils ont en plus une permanence juridique ouverte à tous. Quand vous avez des questions sur l'embauche et le juridique de votre production, il ne faut pas hésiter à les appeler. Et en plus, ils sont sympas. Ensuite, on a les subventions de répartition. Alors ça, par exemple, il y en a d'autres, mais par exemple, CNV ou ASTP. Le CNV ou l'ASTP sont des associations qui, en fait, taxent les spectacles sur les billetteries. Donc sur chaque billet vendu, il y a une taxe. Par exemple, l'ASTP, elle est de 3,5%. Cette taxe, du coup, elle est reversée par les lieux au profit de l'ASTP. Et ensuite, l'ASTP, par exemple, mais le CNV le fait aussi, redistribue cette bourse. Cette taxe, il la redistribue et c'est pas exactement une subvention. C'est une forme, je crois que le terme exact, c'est une garantie assurantielle. Donc en fait, c'est pour permettre la création et assurer les éventuels déficits. Sachant que cette aide est remboursable, mais parfois ça permet de faire un montage. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient très compliqué, mais pareil, allez voir sur internet. Après, il y a les aides à l'insertion professionnelle, par exemple, les plus célèbres qui sont extrêmement précieux et qui, pour nous et pour la jeune création, sont des interlocuteurs essentiels, c'est les SAD et le JTN. Donc, c'est des aides à l'insertion professionnelle. Et par exemple, le JTN et les SAD font à peu près la même chose. Vous embauchez 4 comédiens. Sur les 4, il y en a 2 du JTN. Le JTN prend en charge le brut, et pas le coût employeur, mais le brut des salaires au montage, par exemple. Donc des 2 comédiens en question. Donc ça, c'est parfois très intéressant. Ça vous permet, si vous en avez plusieurs, même qu'un seul, ça vous permet de glaner 2000, 4000, 8000 euros. Après, il y a les fonds. Donc c'est par exemple le fonds pour la création lyrique, si vous êtes sur une création lyrique. Le fonds pour la création musicale, si il y a de la musique dans votre spectacle. Bon, il y en a d'autres. Donc ça, c'est des fonds. C'est pareil, c'est sous forme d'aide au projet, quoi. Mais qui sont dans des cas spécifiques de... selon les spécificités de votre projet. Par exemple, le fonds pour la création lyrique, je crois que le dépôt et l'instruction des dossiers est relayé de mémoire par la SACD. Les sociétés civiles, c'est donc Spedida, Madami et SACEM. Et en fait, ça, ce sont donc toutes, celles que je viens de citer, sont des structures de perception sur différents droits d'auteur ou différents auteurs ou différents interlocuteurs. Par exemple, la SACEM, c'est sur les droits musicaux. La Dami, c'est sur les droits des interprètes. Et la Spedidam, c'est sur les droits à la musique enregistrée. Et en fait, c'est selon les critères d'éligibilité, ils vont vous donner une enveloppe pour... C'est toujours fléché sur les salaires de l'équipe de création. Et en fait, ensuite, là, c'est le process inverse du CNV ou de la STP. C'est qu'ils vous donnent cette aide. Mais après, si par exemple, vous avez de la musique dans votre spectacle et que vous touchez la Spedidam, chaque minute enregistrée de votre spectacle est susceptible de perception. C'est-à-dire qu'à chaque représentation, vous avez une petite taxe. Donc là, c'est la version indirecte, c'est qu'ils vous donnent une enveloppe et vous la reversez progressivement. Sachant que, non, faites pas la grimace, ça monte tellement de production que vraiment... En fait, c'est comme un espèce de crédit. Mais c'est un crédit très intelligent et qui, de surcroît, permet de sauver les salaires de votre équipe. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de salarier les équipes et de permettre ça. Donc ça, moi, j'avoue que je suis assez fan. Après, il y a les crédits d'impôt. Bon, bah ça, pour l'instant, je pense que ça va pas arriver tout de suite sur les jeunes créations. Mais donc, les crédits d'impôt, c'est par exemple celui sur le spectacle vivant n'existe pas encore. Le SNES, le Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles en Tournée, est en train de livrer une bataille là-dessus avec l'État. Mais le crédit d'impôt spectacle vivant n'existe pas encore. En revanche, celui de la musique existe. Donc, si vous êtes sur la création d'un spectacle musical, vous avez un crédit d'impôt qui est assez énorme. Je crois que c'est 30% des dépenses éligibles. Donc, c'est si vous êtes sur une création d'envergure et que vous êtes juridiquement compatible, vous avez une enveloppe allouée qui est assez conséquente. Après, il y a les commandes d'État. Bon, alors là, on est dans des cas très spécifiques, mais par exemple, si vous travaillez avec un compositeur de musique d'opéra, eh bien, ce compositeur peut, en son nom, déposer une commande d'État. Commande d'État qui, si elle est retenue et acceptée, eh bien, par exemple, la commande d'État pour l'opéra, c'est 15 000 euros, je crois. Et donc 15 000 euros, c'est simple, en fait, ça va financer toute la composition musicale et les salaires du compositeur. Donc grâce à ça, vous vous êtes offert un compositeur. Et en plus, du coup, quand je dis offert, vous n'avez rien à payer, il est financé. Voilà. La commande d'État, elle va financer un poste ou un truc particulier de votre création. Et ensuite, deux autres produits qu'il reste à mettre en équilibre sur votre budget. Le fonds propre de la compagnie, si vous avez un petit peu d'argent de côté parce que vous aviez déjà créé quelque chose ou que, bon, voilà, ou que vous avez envie de mettre vos économies dedans. Et évidemment, puisqu'on est au regard d'une exploitation, les recettes, la billetterie. Donc ça, ça reste toujours pareil, mais c'est comme les subventions, c'est des produits espérés, donc là, ce sont des recettes espérées. Mais donc, on fait un prévisionnel en se disant, voilà, j'ai 10 dates avec un ticket moyen à 12 euros. J'espère qu'on sera à moitié de salle tous les jours en moyenne. Donc, on fait le total, on arrive en recettes brutes. N'oubliez pas de retirer les taxes, les TVA, les machins, les droits d'auteur, ce qui nous donne donc les recettes nettes espérées. Mais ça, c'est potentiellement un produit. Au Festival d'Avignon, on espère un produit en recette. Je fais une ellipse dont on s'est parlé tout à l'heure avec Xavier, parce que c'est souvent le chargé de diffusion qui vit ça de très très près. C'est là où vous devez être très intelligent dès le début. Il faut être un petit peu, il faut être un petit peu dur en ce qui concerne les attributions d'invitation, les détaxes, les copains, etc. Le spectacle vivant, ça doit vraiment, parce qu'on n'est pas justement, on n'est pas au cinéma, et que d'ailleurs au cinéma tout le monde paye, même si on a fait chef opérateur sur le film, on repaye quand on va en salle. Il faut au maximum sensibiliser, surtout quand on démarre, que c'est pas parce qu'on a plein de copains qu'on va tous les inviter. Donc vraiment être assez fidèle là-dessus et gérer ses invitations. Et je fais une ellipse dans l'ellipse, c'est qu'on parle de billetterie. Je peux que vous inciter, pour ceux qui démarrent dans le spectacle vivant, à être extrêmement, extrêmement soucieux, bienveillant, poli et respectueux de l'équipe d'accueil. Et équipe d'accueil, la première personne au front, c'est la responsable de billetterie et ensuite la communication et les relations publiques. C'est un travail à deux quand on est en exploitation. J'entends à deux entités, la compagnie qui est accueillie et le lieu qui vous accueille. Et ils nous doivent, quand on est une compagnie et qu'on va jouer dans un lieu, le lieu ne nous doit pas plus que nous leur devons. Donc en fait, être poli avec une responsable de billetterie, ça veut dire que la billetterie se passera bien, ça veut dire que les spectateurs seront heureux et ça veut dire que votre représentation sera beaucoup plus belle. Là, comme ça, ça a l'air un peu naïf, je ne vous apprends pas la vie, mais c'est pas, on voit beaucoup trop passer d'équipes qui négligent tout ça. Et pareil, un responsable de communication avec qui tout se passe bien, c'est un responsable de communication du théâtre qui va mieux communiquer sur votre spectacle. Il ne le fera pas forcément exprès, mais il aura plus de passion à le faire et c'est positif, quoi. Et inversement, d'ailleurs, du coup, ça fait que le lieu d'accueil ne sera que plus gentil avec vous. Donc, tout le monde est content. Voilà. Et merci beaucoup.
Merci.
C'est gentil. Merci.
Je m'appelle Lily Fèvre, du coup. J'ai une compagnie qui s'appelle la compagnie Oloane. Et je suis auteur-metteur en scène dans cette compagnie. Et pour l'instant, on n'a pas d'administrateur ou de producteur ou de diffuseur. Et donc, on fait tout nous-mêmes, donc moi-même d'ailleurs. Et je pense que c'est des masterclass comme ça qui permettent de faire les choses mieux en tous les cas. Pas bien, pas aussi bien qu'un administrateur ou qu'un... mais mieux. C'était hyper détaillé. Et c'est vrai qu'elle avait peur d'être soporifique, mais c'est justement ce genre de détails dont on a besoin et envie. Donc c'est hyper Au contraire, c'était hyper intéressant. Ouais. Il y a des détails de subventions, compatibilité de certaines subventions, des choses aussi au niveau des différents budgets et de comment tout établir, des choses techniques aussi, établir par exemple ce qu'elle a appelé les bibles de production, tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Voilà, après, je m'étais assez renseignée pour ne pas avoir appris des choses basique et fondamentale dont elle a parlé et qui pour le coup faisait écho à des choses que je connaissais déjà, mais on a déjà joué et on va encore jouer. Ça s'appelle All One, c'est le même nom que la compagnie en fait, et ça part de la foule, du groupe et des thématiques justement d'exclusion ou d'insertion dans la foule, dans le groupe, de toutes ces foules auxquelles on est confronté tout le temps, et voilà, c'est de la danse et du théâtre, et voilà.